La vie politique française étant marquée par des élections presque tous les ans, nous profitons d'une année sans élection pour expliquer justement les raisons pour lesquelles nous y participons régulièrement. En nous présentant chaque fois que nous le pouvons, nous sommes fidèles à l'héritage du mouvement ouvrier. Pas plus que les révolutionnaires qui nous ont précédés, nous ne pensons que les élections changent la vie ou la société. Alors, à première vue, cela peut paraître paradoxal de faire l'effort de nous y présenter. Mais nous pensons qu'une organisation communiste révolutionnaire doit participer aux élections chaque fois qu'elle en a la possibilité. Nous ne sommes pas électoralistes et en même temps, nous sommes pour nous saisir de toutes les possibilités qu'offre une campagne électorale pour faire avancer nos idées. Cela permet d'abord de défendre largement notre programme, de nous adresser à l'ensemble des travailleurs. Ainsi, il faut trouver le langage pour nous faire comprendre et vérifier leur accord ou non avec nos idées. C'est aussi le moyen de nous confronter aux autres partis, de proposer une politique ouvrière face à toutes les variantes de politique bourgeoise. Pour toutes ces raisons, cela peut contribuer à élargir notre audience. En France, même le fait de pouvoir s'exprimer, ne serait-ce que par le bulletin de vote, a été un combat. Pour aboutir à ce que les citoyens, comme disent les politiciens, puissent participer à la vie politique, il a fallu près d'un siècle avec de nombreuses péripéties, y compris des affrontements violents. Ce furent parfois des révolutions qui l'imposèrent aux classes dirigeantes. Lorsque les premiers partis à se réclamer des idées de Marx et Engels, les partis socialistes se sont développés à la fin du XIXe siècle, ils y sont parvenus dans de nombreux pays en participant notamment aux combats politiques que sont les campagnes électorales. Bien sûr, elles se déroulaient dans des contextes bien différents selon le pays, que ce soit la France, l'Allemagne ou la Russie. Mais le problème des droits démocratiques traversait tous les partis socialistes qui appartenaient à la même internationale. Fallait-il ou pas participer aux élections? Dans quel but fallait-il y participer? Pour faire de la propagande? Pour avoir des élus? En faisant des alliances ou pas? Avec qui? Et plus tard, une autre question débattue avec ardeur va surgir. S'il faut se battre pour avoir et garder des élus à tout prix, ne risque-t-on pas de trahir ses idées? Sur toutes ces questions, le mouvement ouvrier a connu bien des discussions et des désaccords qui révélaient des divergences plus profondes, notamment entre, d'un côté, les révolutionnaires et, de l'autre, les réformistes qui pensaient qu'il était possible de changer le sort des travailleurs graduellement par la voie électorale. Ce sont ces batailles politiques qui ont aidé à la construction des partis ouvriers. Elles ont contribué à unifier la classe ouvrière, à surmonter les divisions, les corporatismes et à ce que se forge une conscience de classe, c'est-à-dire la conscience que ses intérêts sont distincts de ceux de la bourgeoisie. Contrairement à ce que prétendent aujourd'hui le Parti socialiste et le Parti communiste issu du stalinisme, le programme électoral du Parti ouvrier n'était pas un moyen d'accéder au pouvoir, mais c'était l'un des moyens de rallier, d'organiser les ouvriers derrière un même drapeau. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre nos propres participations électorales. Mais avant d'en parler, ma camarade va relater les combats au travers desquels le suffrage universel a été imposé et l'usage qu'en ont fait les partis ouvriers révolutionnaires. Et je passe la parole à Isabelle Bonnet.
Pour commencer, précisons que le suffrage universel n'a pas toujours existé en France et qu'aujourd'hui encore, il n'existe pas partout. Il y a des pays où il n'existe toujours pas, des pays de dictature où il est très limité, d'autres encore où il s'accompagne d'une procédure qui peut nous paraître compliquée, comme aux États-Unis par exemple. Mais même ici, pays considéré comme un modèle en la matière, les hommes politiques ne représentent pas vraiment le peuple français. Et s'ils prétendent tirer leur légitimité du suffrage des urnes, ils n'imaginent même pas que le suffrage universel a été le produit d'une série de combats dont la première étape fut la Révolution française. En 1789, la Révolution française élabora la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui affirmait l'égalité de tous devant la loi. Mais les intellectuels qui l'avaient rédigée contre le pouvoir monarchique n'avaient pas été jusqu'à reconnaître le droit de vote à tous les citoyens, puisque les plus pauvres en étaient exclus, mais aussi les femmes et les esclaves dans les colonies françaises. Seuls votaient les hommes qui payaient l'impôt, le cens, comme on l'appelait à l'époque. Ainsi, en bas de l'échelle, 3 millions de citoyens dits « passifs » étaient privés du droit de vote, tandis que les 4 millions de citoyens actifs, c'est-à-dire les plus fortunés, désignaient les 44 000 électeurs qui choisissaient les députés. Ce suffrage censitaire n'était donc ni universel, ni direct. Ce n'est qu'à l'issue de l'insurrection qui renversa la royauté et proclama la Première République, dans le feu des événements révolutionnaires d'août 1792, que fut décidée la convocation d'une convention nationale élue au suffrage universel. Pour la première fois, et grâce à la mobilisation des masses populaires, le droit de vote fut reconnu à tous les hommes. Le suffrage n'était pas vraiment universel, car toujours exclusivement masculin. Et il ne fut appliqué que le temps d'un scrutin. Il y eut peu de votants, autour de 10%, car les procédures pour s'inscrire sur les listes électorales prenaient souvent plusieurs jours, ce qui était impossible pour la plupart des ouvriers des villes ou des paysans pauvres qui devaient gagner chaque jour leur pain quotidien. La Constitution de 1793, qui en sortit, fut la plus démocratique qui ait jamais existé. Elle étendit même le droit de vote aux étrangers domiciliés en France depuis au moins un an. Mais ce fut la seule fois. Les révolutionnaires étaient capables au moins de faire ce que, plus de 2 siècles après, n'est toujours pas le cas aujourd'hui. Cette constitution fut approuvée lors d'un référendum par une écrasante majorité de votants, mais elle ne fut jamais appliquée. Dès que la grande bourgeoisie fut revenue de la grande terreur qu'elle avait éprouvée devant l'irruption des masses sur la scène de l'histoire, dès qu'elle reprit les choses en main, en éliminant Robespierre et les Jacobins, elle restaura le suffrage censitaire, c'est-à-dire réservé aux plus riches. Il fallut bien d'autres événements révolutionnaires et près de 3/4 siècle pour imposer le suffrage universel en France. L'influence du mouvement chartiste en Grande-Bretagne dans les années 1840 joua un rôle. En Angleterre, pays qui s'industrialisa le premier, la classe ouvrière et ses représentants se mobilisèrent pour exiger un système électoral démocratique. À l'époque, la majorité de la population était constituée de la classe ouvrière qui était écartée de toute possibilité de s'exprimer politiquement. Il y eut alors un vaste mouvement qui mobilisa des millions d'ouvriers pendant une décennie, de 1837 à 1848, et revendiqua une charte. Cette charte était une pétition qui avait été adoptée à l'initiative de l'Association des travailleurs londoniens et qui affirmait en préambule « Malgré tous les éléments de prospérité nationale, nous sommes écrasés de souffrances privées et publiques. » Pour changer leur sort, les ouvriers réclamaient par cette pétition le suffrage universel, la réunion annuelle du Parlement, le secret des votes et l'allocation d'une indemnité aux députés, seul moyen de permettre à des élus issus des rangs ouvriers et n'ayant pas les revenus d'un bourgeois ou d'un aristocrate, de subvenir à leurs besoins pendant leur mandat. Le mouvement chartiste fut finalement vaincu et durement réprimé par le gouvernement. Mais pour la première fois, la classe ouvrière avait montré qu'elle n'était pas seulement une classe exploitée et souffrante, mais aussi une classe combattante, revendiquant des droits politiques élémentaires. L'exemple de ce mouvement chartiste allait inspirer les révolutionnaires en France, qui proclamèrent pour la deuxième fois la République sur les barricades en février 1848. Après les piques des sans-culottes, ce furent les fusils des ouvriers parisiens des faubourgs qui imposèrent l'adoption du suffrage universel pour élire l'Assemblée constituante. Cette révolution fut déclenchée par l'interdiction d'un banquet par le pouvoir, banquet qui s'inscrivait dans une campagne pour demander une réforme électorale. Il faut dire qu'en 1847, il n'y avait que 250 000 électeurs. Au-delà des plus pauvres, c'était donc aussi de larges couches de la petite et moyenne bourgeoisie qui étaient privées du droit de vote. Elles aspiraient à participer davantage à la vie politique par un élargissement du suffrage censitaire. Les monarchistes, opposant à la réforme électorale, affirmaient « Le droit électoral n'est pas dans le nombre, mais appartient à la capacité politique. » À quoi les républicains, partisans de la réforme, répondaient « Il faut changer le système électoral à peine de subir une révolution violente. » On le voit, opposants ou partisans de la réforme électorale, tous craignaient en fait la fureur révolutionnaire du peuple et cherchaient surtout le meilleur moyen de la contenir. La révolution de février 1848 balaya ces calculs. Elle décida de convoquer rapidement une assemblée constituante au suffrage universel, suffrage toujours limité aux hommes, âgés de plus de 21 ans et résidant depuis 6 mois au même endroit. Le corps électoral passait alors de 250 000 électeurs à 9 millions. Alexis de Tocqueville, un républicain libéral qu'on nous présente aujourd'hui comme un des inspirateurs de la démocratie moderne, craignant ce qu'il appelait la dictature de la majorité au nom de l'égalité, s'inquiétait que Paris ne soit sur le point de tomber dans les mains des socialistes armés, selon ses mots. Il fut rassuré par le résultat des élections, dont il décrivit le déroulement dans son village normand. Le matin de l'élection, tous les électeurs se réunirent devant l'église. Tous ces hommes se mirent à la file deux par deux, suivant l'ordre alphabétique. Je voulus marcher au rang que m'assignait mon nom, car je savais que dans les pays et dans les temps démocratiques, il faut se faire mettre à la tête du peuple et ne pas s'y mettre soi-même. Je rappelais à ces braves gens la gravité et l'importance de l'acte qu'ils allaient faire. Je leur recommandais de ne point se laisser accoster ni détourner par ceux qui, à notre arrivée au bourg, pourraient chercher à les tromper. Ils pensent aux révolutionnaires, bien sûr. Mais de marcher sans se désunir et de rester ensemble, chacun à son rang, jusqu'à ce qu'on eût voté. Tous les votes furent donnés en même temps et j'ai lieu de penser qu'ils le furent presque tous au même candidat, c'est-à-dire à lui-même, Tocqueville. Il y eut plus de 80% de votants cette fois-là. Dans les campagnes, les cortèges pour aller voter s'étiraient comme des processions derrière le notable ou le curé. Pas étonnant qu'ils donnèrent une nouvelle assemblée constituée aux 3/4 de représentants qui avaient appartenu à l'ancienne assemblée de la monarchie censitaire. Le suffrage universel avait mobilisé la population derrière les notables. Il confirmait la domination des puissants et des possédants sur la société. La lutte politique opposait monarchistes et républicains. Mais la lutte de classe, elle, se poursuivait. Les ouvriers parisiens, qui n'avaient pas oublié le mot d'ordre de février 1848 de République sociale et qui avaient fait la révolution pour changer leur sort, se sentaient trahis par le gouvernement provisoire qu'ils avaient contribué à mettre en place. Au cri de « du pain ou du plomb », ils descendirent dans les rues de Paris en juin 1848. Mais les hommes de février, les Lamartine, les Garnier-Pagès, tout républicain qu'ils soient, étaient avant tout des représentants de la bourgeoisie et ils firent écraser dans le sang cette insurrection du prolétariat parisien, faisant près de 5 000 morts, arrêtant et déportant en Algérie des milliers de prisonniers. Pour Marx et Engels, cet épisode sanglant démontrait l'antagonisme de classe existant entre le prolétariat et la bourgeoisie. Ils en concluaient que pour s'émanciper, le prolétariat devait s'organiser indépendamment de la bourgeoisie et combattre pour ses propres objectifs. Quant aux classes dirigeantes, responsables du massacre de l'insurrection ouvrière de juin 1848 et encore sous le coup de la peur qu'elle leur avait inspirée, elles vidèrent la nouvelle constitution de tout contenu démocratique, de toute référence à la République sociale. La peur des rouges, utilisée comme un épouvantail par les politiciens conservateurs, conduisait à des votes de plus en plus réactionnaires au sein de la Constituante et lors des élections qui suivirent. D'abord, il y eut l'élection présidentielle en décembre 1848, qui fut la première au suffrage universel et la dernière pour longtemps. Elle élut comme président de la République Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier, avec près de trois quarts des suffrages. Les ouvriers et tous ceux dont le cœur battait pour les idées révolutionnaires choisirent de s'abstenir ou votèrent pour Louis-Napoléon Bonaparte, car son opposant, le candidat des Républicains, n'était autre que Cavaignac, le général qui avait mitraillé les insurgés de juin. Il y eut ensuite des élections législatives en mai 1849 qui donnèrent une écrasante majorité au parti de l'ordre qui s'appuyait sur les paysans sous la coupe des hobereaux locaux et des curés et coupé du Paris révolutionnaire. Regroupant tous les nostalgiques de la monarchie, des légitimistes aux orléanistes, le programme du Parti de l'Ordre était dans son slogan « Religion, propriété, famille ». Inutile de préciser que tout ce beau linge était violemment hostile au suffrage universel, car le suffrage universel et l'idée que les hommes avaient des droits égaux représentaient tout ce que ces gens-là détestaient. Cette République chancelante allait être finalement balayée par le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, deux ans plus tard, le 2 décembre 1851. Peu après son coup d'État, il se faisait comme son oncle, proclamé empereur. Pendant les trois années qui s'étaient écoulées entre la Révolution de 1848 et ce coup d'État, la bourgeoisie républicaine avait été de trahison en renoncement, car elle voulait avant tout pouvoir vaquer à ses affaires, y compris éventuellement sous la protection d'un État fort ayant les coudées franches. Représentée par des hommes politiques de plus en plus conservateurs, elle fit le lit de la dictature d'un seul homme, l'empereur, et de la chute du régime parlementaire. Le parlementarisme bourgeois étant encore par trop instable, la bourgeoisie préférait plutôt une fin effroyable qu'un effroi sans fin, selon l'expression de Marx. L'Empire s'effondra après la défaite contre la Prusse et sur ses ruines, une nouvelle République fut proclamée en septembre 1870. Mais l'Assemblée, élue en janvier 1871 par un suffrage charcuté qui privait de vote les pauvres, les ouvriers rendus itinérants par la recherche d'un travail, qui plaçait les paysans sous l'autorité des notables ruraux et des nobles, fut là encore majoritairement royaliste. Un véritable pouvoir démocratique fut exercé cependant pendant trois mois par le petit peuple de Paris, ouvriers, paysans, boutiquiers, qui s'étaient soulevés contre les attaques de cette assemblée de ruraux. Ce fut la Commune de Paris. Lénine analysait ainsi l'importance de cet événement. Au parlementarisme vénal, pourri jusqu'à la moelle, de la société bourgeoise, la Commune substitue des organismes où la liberté d'opinion et de discussion ne dégénère pas en duperie, car les parlementaires doivent travailler eux-mêmes, appliquer eux-mêmes leurs lois, vérifier eux-mêmes les effets, en répondre eux-mêmes directement devant les électeurs. Les organismes représentatifs demeurent, mais le parlementarisme comme système spécial, comme division du travail législatif et exécutif, comme situation privilégiée pour les députés, n'est plus. Les élus de la Commune, ainsi que la plupart des fonctionnaires, étaient non seulement responsables devant leurs électeurs, mais également révocables, et ils ne touchaient qu'un salaire d'ouvrier qualifié. La Commune était, selon les mots de Marx, la forme politique enfin trouvée qui permettait de réaliser l'émancipation économique du travail. Cette expérience nouvelle ne dura pas et ne se limita qu'à une ville, la capitale. Elle fut bientôt écrasée par l'armée de la bourgeoisie française, aidée par l'armée prussienne, qui faisait le siège de Paris. La répression fit près de 30 000 morts en une semaine à peine. Ce massacre est resté dans le mouvement ouvrier sous le nom de « Semaine sanglante ». Les tribunaux condamnèrent des milliers d'autres ouvriers et militants à la mort devant un peloton d'exécution ou à la déportation et au bagne. Louise Michel fut ainsi déportée en Nouvelle-Calédonie pendant 7 ans après avoir connu 20 mois de détention. Ceux qui purent échapper à la répression se réfugièrent en exil et à l'étranger, ou à Londres ou ailleurs. Cette saignée dans le mouvement ouvrier français, qu'il mit plus d'une décennie à surmonter, était à la mesure de la frayeur qu'avait suscité dans la bourgeoisie française ce régime ouvrier qui, pour la première fois dans l'histoire, mit en œuvre la proclamation de l'Internationale ouvrière. L'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. La République... La République parlementaire, basée sur le suffrage universel, ne fut officiellement établie en France qu'en 1875. Un Parlement, c'est encore le meilleur moyen pour les partis bourgeois de discuter entre eux, ouvertement ou en coulisses, des intérêts des diverses couches de possédants, hors de la pression des mouvements sociaux, de la rue, comme ils disent encore aujourd'hui. La bourgeoisie a appris sans grande difficulté à gouverner avec le suffrage universel. Elle n'y perdait ni ses prérogatives, ni ses profits. En l'utilisant bien, il était un instrument de tromperie permettant à une minorité de privilégiés et à ses représentants de diriger la société pour leur propre compte, tout en gardant les apparences d'un régime où c'est le peuple qui décide. Derrière l'égalité formelle de droit, il y a toujours les inégalités sociales. La société capitaliste reposant sur l'exploitation et le vol des richesses créées par l'ensemble de la population, mais appropriées par un petit nombre, elle essaie de dissimuler ce pouvoir des plus riches derrière le paravent de la démocratie parlementaire. Démocratie parlementaire à propos de laquelle Marx disait qu'elle consiste pour les opprimés à décider périodiquement et pour un certain nombre d'années qui sera parmi les représentants de la classe des oppresseurs celui qui les foulera aux pieds au Parlement. Pour les hommes politiques bourgeois, le suffrage universel pouvait être un amortisseur des secousses sociales, à condition de prendre certaines précautions pour éviter l'élection d'une assemblée qui risquait de porter atteinte aux intérêts des possédants. C'est peut-être anecdotique aujourd'hui, mais significatif. Il fallut par exemple une vraie bataille pour imposer que le vote soit secret et pas sous l'œil du patron ou du représentant du gouvernement. Dans les premières consultations, c'était même le président du bureau de vote qui mettait le bulletin dans l'urne. Il pouvait non seulement savoir pour quel candidat chacun votait, mais il pouvait aussi maculer les bulletins qu'il voulait rendre nuls. C'est ainsi que la pratique du morceau de lard caché sous la table qui portait l'urne n'était pas rare. Quand le président voyait entrer dans le bureau un électeur qu'il jugeait suspect de ne pas bien voter à ses yeux, il passait la main sous la table avant de s'emparer du bulletin qu'il tâchait de ses doigts graisseux. L'isoloir ne fut imposé en France qu'en 1913 avec l'enveloppe dans laquelle on glisse son bulletin. Jusque-là, les bulletins étaient distribués par les candidats ou leurs représentants devant le bureau de vote et l'électeur choisissait son bulletin au vu et au su de tous. Pour les notables, c'était le moyen le plus sûr de guider l'électeur dans son choix. Des parlementaires conservateurs étaient contre l'isoloir parce qu'ils étaient contre l'idée que l'électeur échappe à leur pression ou à celle du patron ou du curé. Ils en riaient à l'Assemblée, l'appelant le cabinet ou la cellule. Avec leur arrogance de classe, ils glosaient sur les ouvriers gênés par leurs doigts calleux ou la maladresse des paysans qui n'auraient pas la dextérité pour ouvrir l'enveloppe. Il y avait même ceux qui, bien qu'hostiles au vote des femmes, imaginaient grassement ce qui pourrait se passer dans l'obscurité de l'isoloir quand hommes et femmes y accéderaient ensemble. Certains notables offraient le coup à boire en même temps que le bulletin pour s'assurer du vote. En Bretagne, on disait d'une élection où on ne payait pas à boire à l'électeur qu'elle était une élection sèche et de fait, avec beaucoup moins de participation. Sur le plan politique, Les restrictions au droit de vote étaient nombreuses. Les femmes, c'est-à-dire rien moins que la moitié de l'électorat, en étaient exclues. Même le Front populaire, en 1936, ne leur accorda pas ce droit et elles durent attendre 1945 pour l'exercer. La couleur de peau fut aussi à l'origine de restrictions. Les esclaves noirs avaient bien été libérés officiellement de l'esclavage par la Révolution de 1848, mais ils durent se battre contre le racisme et le mépris de classe pour exercer leur droit de vote et pour être candidats. Hégésip Légitimus fut le premier député noir élu en 1898. C'était le fondateur du Parti socialiste révolutionnaire lié au Parti ouvrier de France de Jules Guesde et de Paul Lafargue. Pour être exact, il y avait eu un député noir en 1793, mais pour vraiment très peu de temps, le haïtien Jean-Baptiste Bellé. Quant aux peuples coloniaux, ils furent privés de tout droit démocratique pendant près d'un siècle, jusqu'en 1946, la France républicaine s'accommodant très bien de l'exclusion politique de ce qu'elle appelait les indigènes dans son immense empire colonial. En Algérie, il fallut attendre 1947 pour que le gouvernement socialiste de Ramadier mette en place un nouveau statut. Pour la première fois, les Algériens, mais pas les femmes, obtinrent le droit de vote aux élections générales. Mais il y avait un collège à part pour les indigènes, qui élisait le même nombre de sièges que les Français, alors qu'ils étaient 8 fois plus nombreux. Les nationalistes décidèrent de participer aux élections municipales de 1947 pour populariser les idées d'indépendance auprès d'un large public et gagner son adhésion. Les meetings qu'ils organisaient attirèrent un public énorme. Les salles étaient pleines. Le résultat fut un succès dans toutes les villes importantes, donnant la victoire aux nationalistes. Les listes soutenues par le pouvoir étaient évincées, ce qu'il ne supporta pas. Aux élections législatives de 1948, le pouvoir colonial truqua les élections, bourrant les urnes, et il usa d'intimidation, de violence, arrêtant même les candidats pour fausser les résultats et faire élire les candidats de l'administration au collège indigène. Il ne tolérait même pas une liberté politique limitée. Même aujourd'hui, les étrangers, plus de 3 millions, sont toujours privés du droit de vote. Ils représentent pourtant 20 à 30% de la classe ouvrière actuelle, vivant en France depuis des années, y élevant leurs enfants, contribuant par leur travail à la richesse du pays, par leurs impôts aux recettes de l'État. Ce n'est pas la moindre des lamentables capitulations de la gauche gouvernementale devant la montée des idées réactionnaires que de l'avoir maintes fois promis et chaque fois enterré quand elle avait la possibilité de le mettre en œuvre. Pour notre part, nous sommes bien évidemment pour le droit de vote des étrangers à toutes les élections. Alors, si la bourgeoisie a su encadrer, limiter le suffrage universel pour le contrôler, les partis ouvriers socialistes, qui allaient se développer à partir des années 1870, apprirent aussi à l'utiliser pour leur propre compte. La répression sanglante de la Commune de Paris avait démontré que le pouvoir des ouvriers et le pouvoir de la bourgeoisie étaient inconciliables. Des enseignements que le mouvement ouvrier pouvait tirer de la Commune, un était particulièrement important et il fut retenu par Marx et les militants qui l'influençaient. Pour transformer complètement la société, il fallait à la fois conquérir le pouvoir et abattre le pouvoir de la bourgeoisie. Pour atteindre ce but, il fallait se préparer aux futurs affrontements de la lutte de classe en gagnant de larges masses ouvrières aux idées socialistes. Le problème de l'heure était de construire des partis ouvriers capables de mener une politique de classe, au moins à l'échelle d'un pays, et de coordonner leurs actions dans une nouvelle internationale, la Deuxième Internationale. En France, à partir des années 1870, le développement économique et la mécanisation de l'industrie allaient transformer la classe ouvrière. Jusque-là dispersée dans de petits ateliers, elle se concentrait désormais dans des centres industrielles. Cela faisait surgir des militants dans tout le pays. La lutte de classe quotidienne a mené de nouvelles générations d'ouvriers à revendiquer, à manifester, à faire grève. Ces grèves allaient arracher des augmentations de salaire et la réduction du temps de travail. Elles parvenaient à imposer au gouvernement quelques lois pour protéger les ouvriers contre les pires aspects de l'exploitation patronale, comme par exemple la loi interdisant le travail des enfants de moins de 12 ans en 1874. Il y avait tout un foisonnement d'organisations, de partis, de syndicats se réclamant de la lutte de classe ou même du socialisme. Le mouvement syndical et le mouvement politique se développaient et s'influençaient mutuellement. C'est Jules Guesde qui incarna le courant marxiste en France. Pendant un quart de siècle, il milita pour construire un parti ouvrier socialiste, un parti qui défende l'indépendance politique de la classe ouvrière et qui se démarque des courants radicaux et républicains qui représentaient la gauche de l'époque. Avec Paul Lafargue, gendre de Marx, ils contribuèrent à l'implantation d'un parti dans la classe ouvrière et en assurèrent la boussole politique. Parmi les batailles politiques que la classe ouvrière devait mener, Jules Guesde défendait l'idée de participer aux batailles électorales sur la base d'un programme se référant au socialisme. Il estimait que si le prolétariat n'était pas représenté sur le terrain électoral, les partis représentant les divers intérêts de la bourgeoisie y seraient présents, eux. Guesde pensait que les travailleurs ne devaient pas se priver de participer à l'action politique et qu'au contraire, l'action révolutionnaire de la classe productive devait, je le cite, être poursuivie par tous les moyens dont dispose le prolétariat, y compris le suffrage universel, transformé ainsi d'instrument de duperie qu'il a été jusqu'ici en instrument d'émancipation. En 1880, il faisait adopter en Congrès un programme électoral des travailleurs socialistes, dont la partie économique comme la partie politique avait été approuvée par Marx et Engels. Ce programme devait permettre, selon ses termes, à la France ouvrière de s'arracher aux politiciens bourgeois qui l'exploitent et de se compter, de s'affirmer en tant que classe. Le journal guédiste L'Égalité, sous-titré « Organe collectiviste révolutionnaire », expliquait « Ce n'est pas un programme de réforme que l'on a adressé. Ce n'est pas l'entrée de quelques socialistes au Parlement que l'on doit avoir en vue. Ce n'est pas une action parlementaire quelconque que l'on doit viser. On ne doit chercher qu'un moyen de rallier la classe ouvrière éparse dans les différents partis bourgeois, de la séparer de ceux dont les intérêts sont diamétralement opposés aux siens, de l'organiser en forces distinctes capables de briser le milieu social actuel. » Le programme électoral contenait les principales revendications de la classe ouvrière. La journée de 8 heures, la suppression du livret ouvrier qui permettait aux autorités de contrôler les déplacements des ouvriers, l'accès à l'instruction des enfants, la suppression de toutes les limitations aux droits de réunion et d'association, mais aussi l'armement général du peuple. Sur ces revendications économiques et politiques, le parti ouvrier menait une agitation, une propagande à l'échelle du pays. La participation aux élections devint un levier pour diffuser les idées socialistes dans de larges couches ouvrières, afin d'éduquer politiquement la classe ouvrière. Dans les années 1880, il n'y avait pas un seul parti socialiste, mais plusieurs, dont le parti ouvrier de Guesde et de Lafargue, qui lui se réclamait du marxisme et voyait dans les élections un point d'appui pour le combat général. Mais il y avait aussi les possibilistes, qui pensaient, eux, que le bulletin de vote permettait de changer le rapport de force. Discuter les prises de position des différents socialistes, comparer les interventions des uns et des autres, tout cela permettait de faire progresser la conscience politique. À côté des socialistes, il existait dans le mouvement ouvrier d'autres tendances qui n'avaient pas la même attitude par rapport aux élections, en particulier les anarchistes, qui prenaient l'action directe et refusaient de participer aux élections qu'ils considéraient comme une impasse, pour ne pas dire une diversion, voire une trahison. Lors des campagnes électorales, toute la vie politique s'animait. En 1893, le préfet de police de Paris estimait que sur 350 000 inscrits, 170 000 avaient participé à un meeting électoral près d'un électeur sur deux. Les cabarets ouvriers y tenaient leur place. À l'époque, les journées de travail duraient plus de 10 heures, 6 jours sur 7. On en sortait pour aller au cabaret, qui devenait alors un lieu de réunion et d'agitation politique. Les ouvriers s'y pressaient pour entendre les militants défendre leurs candidats, les orateurs confronter leurs programmes. Réunions et meetings permettaient de toucher une partie importante de la population, de faire connaître les militants ouvriers et leurs idées. Pour avoir des élus dans le cadre du scrutin majoritaire à deux tours, il fallut à plusieurs reprises faire des alliances tactiques avec les radicaux, qui représentaient la petite bourgeoisie progressiste des villes, les artisans, les professions libérales. Ces radicaux reprenaient dans leur programme certaines revendications ouvrières, mais ils combattaient l'idée d'un parti socialiste ou qui se définissait comme tel, au nom d'un prétendu front républicain. Pour les socialistes, il n'était pas question d'un front commun avec les radicaux, mais seulement de faire élire des députés socialistes au second tour grâce à des désistements mutuels. Ces députés, une fois élus, ne devaient défendre que leur propre programme. Le premier député socialiste fut élu à Marseille en 1881. Un an plus tard, en 1882, Thivrier, un ouvrier mineur, fut élu maire de Commentry dans l'Allier. Dans les années qui suivirent, de nombreuses villes ouvrières allaient élire un maire socialiste, de Montluçon à Roubaix, de Saint-Denis à Marseille. Certains de ces maires, pourtant élus légalement, furent révoqués par les préfets, car la bourgeoisie, considérant les municipalités comme des rouages de son pouvoir politique, ne voyait pas d'un bon œil des socialistes pénétrer ces institutions. Des maires ouvriers durent se battre pour que leurs patrons les laissent exercer leur mandat. D'autres furent licenciés à peine élus. Les élections pouvaient alors déboucher sur d'autres combats, comme la grève des mineurs de Carmaux, à la suite du licenciement du maire fraîchement élu, un ajusteur dans les mines. En janvier 1886, éclata la grève de Decazeville, dans l'Aveyron. 2000 mineurs arrêtèrent le travail parce que le patron avait brutalement baissé le salaire. Le directeur Vatrin reçut en mairie une délégation à laquelle il refusa la moindre concession. Poursuivi par la foule en colère, il fut rattrapé et défenestré. Mort à la suite de ses blessures, il devint le martyr de la cause patronale. La répression s'abattit sur les grévistes. Les socialistes se solidarisèrent des grévistes. Jules Guesde écrivit le lendemain dans son journal « Le sang avait coulé. Par extraordinaire, pour la première fois peut-être, ce n'est pas du sang ouvrier. Devant ce cadavre d'employeur, de tortureur, qui va tirer des larmes de tous les yeux bourgeois et des condamnations d'une justice également bourgeoise, il nous est impossible de penser à autre chose qu'aux souffrances, aux injures et aux provocations dont une pareille mort n'est que le couronnement, pour ne pas dire le châtiment. » Les quatre députés ouvriers qui avaient été élus grâce à des alliances avec les radicaux et qui jusque-là ne s'en distinguaient guère, prirent résolument position pour les grévistes et ils furent les seuls. Le député Bally, qui avait été lui-même mineur pendant 18 ans, interpella le gouvernement à l'Assemblée sous les huées de la droite royaliste. Il traita le directeur Vatrin d'affameur, justifia la révolte ouvrière en invoquant la prise de la Bastille en 1789, réclama la mise en liberté des ouvriers arrêtés et développa un programme de revendication ouvrière, comprenant en particulier la revendication de la journée de 8 heures et celle d'un salaire minimum. Seuls ses trois camarades, élus socialistes comme lui, Zéphirin Camélina, Antide Boyer et Clovis Hugues, se levèrent pour l'applaudir devant une salle violemment hostile. Ces députés menèrent alors toute une campagne, à Paris et en province, avec de nombreuses réunions de soutien aux grévistes. Jules Guesde commenta « Les classes et leur lutte fatale ont fait leur entrée au Palais Bourbon. » Pour Engels, cette apparition d'un parti ouvrier au Palais Bourbon est le grand événement de l'année. La chape et maintenant rompue, sous laquelle les radicaux avaient réussi jusqu'à présent à étouffer les masses laborieuses en France. Pour protester contre les arrestations des grévistes de Decazeville, Rochefort, un ancien communard, devenu député de Paris, démissionna, provoquant une élection partielle. Les socialistes des diverses tendances se mirent d'accord pour présenter Ernest Roche, un des condamnés de Decazeville, qui affronta au second tour le candidat radical soutenu par le centre et la droite. Ce fut une campagne pour ou contre la grève de Decazeville. Et si le candidat socialiste perdit finalement, il arriva en tête dans les quartiers ouvriers et il obtint 100 000 voix contre 146 000 au radical. C'était clairement un vote de classe qui témoignait de la force montante de la classe ouvrière. Dans toute cette période, il y avait deux choses qu'un dirigeant socialiste pouvait connaître alternativement, la prison et l'élection. C'est ainsi que Lafargue, jeté en prison en 1891 pour un discours à fourmis, en fut sorti par son élection comme député de Lille. La Deuxième Internationale avait décidé en effet, en 1889, que le 1er mai serait un grand jour de mobilisation pour les 8 heures dans tous les pays. Bien que les grèves et les manifestations soient déclarées illégales, les socialistes allaient mener toute une campagne pour leur réussite, suscitant un vent de panique dans les milieux bourgeois et leur soutien. Comme dirigeant socialiste, Paul Lafargue avait multiplié les réunions, notamment à Fourmies dans le Nord, car les grèves dans le textile y avaient commencé bien avant le 1er mai. Le jour même du 1er mai, le maire, au service d'un patronat désireux de briser le mouvement de grève, fit appel au gouvernement qui déployait des troupes armées. En fin d'après-midi, l'armée tira dans la foule, faisant 9 morts, dont des jeunes filles et des enfants. Cela crée une vive émotion dans tout le pays. 30 000 personnes participèrent aux obsèques organisées par le Parti ouvrier de Guède et de Lafargue dans une ville mise en état de siège. Au lieu d'enquêter sur le massacre, la justice poursuivit le dirigeant local du parti, Culine. Mais elle voulut aussi cogner plus haut en inculpant un dirigeant national, en l'occurrence Paul Lafargue, pour provocation directe au meurtre, suite à sa série de meetings préparant le 1er mai. En juillet, ils furent tous les deux condamnés à de la prison. Pour faire de l'agitation contre ce jugement inique, le Parti ouvrier les présenta comme candidats à des élections partielles. La campagne pour faire élire Lafargue à Lille eut un retentissement national. Jules Guesde et ses compagnons allaient tenir 34 réunions publiques en 38 jours. Dans la profession de foi adressée à ses électeurs, Lafargue leur écrivit de sa prison qu'il n'aurait pas seulement à juger des massacreurs de Fourmies, mais aussi de la société capitaliste tout entière. Élu député de Lille haut la main, en 1891, il sortit de prison. Engels commenta le résultat dans ces termes: une banale élection partielle se trouve transformée en grande action politique. Mais plus que la victoire elle-même, c'est la façon dont elle a été remportée. Un journal bourgeois s'alarmait. Avec M. Lafargue, gendre de Karl Marx, ce qui entre dans le Parlement, c'est le collectivisme. Lafargue utilisa la tribune parlementaire pour exposer les conceptions socialistes à une échelle plus grande. Et entre deux sessions, il parcourait la France pour soutenir les grèves, aider les socialistes locaux, en remplissant les salles de réunion grâce à sa popularité. 2 ans plus tard, en 1893, une cinquantaine de députés socialistes, dont Guesde, élu à Roubaix, entraient au Parlement. Mais ils représentaient les divers partis socialistes, voire étaient indépendants de tout parti. Cette fraction socialiste au Parlement n'avait pas vraiment d'unité. Avec le développement du mouvement socialiste, bien d'autres problèmes se posaient. La question de la participation d'un ministre socialiste à un gouvernement bourgeois allait susciter un débat, non seulement parmi les socialistes français, mais aussi dans toute l'internationale. En 1899, Mirand, un socialiste sans parti, acceptait d'entrer comme ministre dans un gouvernement dirigé par Waldeck Rousseau. Dans ce gouvernement dit de défense républicaine, il côtoyait le général Galifet, le massacreur de la Commune.
Certains socialistes, dont Jaurès, étaient partisans du ministérialisme, comme on disait à l'époque, pour désigner cette participation, en expliquant qu'il fallait faire bloc contre la réaction et tenter de faire avancer les revendications ouvrières, même au gouvernement. D'autres, comme Guède ou Lafargue, étaient absolument contre. Lafargue disait des ministres qu'ils étaient des commis qui servent les intérêts du capital sous le contrôle des députés et des sénateurs. Il expliquait que la participation à un gouvernement résultait toujours de concessions et d'engagements mutuels, alors que le Parti socialiste devait mener le combat sur le terrain des luttes sociales sans que ses attaques au Parlement contre le gouvernement ne soient paralysées par une quelconque solidarité gouvernementale. Cette position, c'est celle que nous défendons encore aujourd'hui. Rejetant les socialistes qu'ils jugeaient réformistes, compromis avec les institutions, trop enclins à pactiser avec les représentants de la bourgeoisie, des ouvriers s'étaient tournés vers le syndicalisme, faisant de la grève la forme d'action des travailleurs. En 1895, les bourses du travail et les syndicats de métiers avaient fusionné pour donner la Confédération générale du travail, avec, dès le départ, une orientation anarcho-syndicaliste. Au congrès de 1906, celle-ci adopta la charte d'Amiens qui revendiquait le caractère révolutionnaire du syndicalisme et son indépendance vis-à-vis du Parti socialiste. De leur côté, les socialistes s'étaient unifiés en un seul parti en 1905. Ils formèrent le Parti socialiste, section française de l'Internationale ouvrière, SFIO, qui s'affirmait comme un parti de lutte de classe, partisan de la révolution. La CGT lui reprochait de rentrer dans le jeu politicien en participant aux élections. Cette défiance de la CGT vis-à-vis de l'action sur le terrain politique des socialistes ne la protégea pas pour autant de la faillite politique, puisqu'en 1914, ses dirigeants, tout comme ceux du Parti socialiste, collaborèrent à la politique d'union sacrée avec leur propre bourgeoisie. Mais le plus puissant parti ouvrier de cette époque, ce fut le Parti social-démocrate allemand. Si l'appellation social-démocrate désigne aujourd'hui des courants ouvertement réformistes, au XIXe siècle, c'était alors le nom qu'on donnait au Parti socialiste qui se réclamait des idées marxistes. En moins d'un demi-siècle, de 1866 à 1914, la social-démocratie a créé au sein de l'Empire allemand une véritable contre-société. À la veille de la guerre de 14-18, le parti comptait près d'un million de membres. Les syndicats qu'il avait contribué à créer regroupaient près de 3 millions de travailleurs. Aux élections législatives de 1912, il obtenait avec près de 35% des voix un groupe parlementaire de 110 députés, le quart du Reichstag, le Parlement allemand. Les idées social-démocrates imprégnaient la majorité de la classe ouvrière. Les militants se cultivaient au travers des bibliothèques ouvrières, des associations de jeunesse ou sportives, et s'éduquaient grâce à des dizaines de journaux, d'écoles du parti. Comment s'est produit cet enracinement dans les classes laborieuses ? Dans les dernières décennies du XIXe siècle, le développement économique de l'Allemagne s'était accéléré. Sous la direction du chancelier Bismarck, l'Allemagne fut tardivement unifiée en un empire allemand en 1871. Le pays connut alors un essor rapide, transformant des millions de paysans crevant la faim et d'artisans en prolétaires. Rien qu'entre 1882 et 1895, le prolétariat augmenta de 40%, passant de 7 millions d'ouvriers à plus de 10 millions. Concentrée dans les centres urbains et les régions industrielles, la classe ouvrière allait mener de nombreux combats contre les patrons et le gouvernement. C'est au travers de ces grèves, de ces manifestations, d'affrontements petits et grands avec la bourgeoisie et son État, que les travailleurs allemands allaient apprendre à s'organiser. Et c'est aussi au travers de batailles politiques, notamment électorales, qu'ils devinrent une véritable force politique, postulant à prendre la direction de la société. Pourtant, pas plus en Allemagne que dans les autres pays, l'idée que le prolétariat formait une classe avec des intérêts politiques distincts n'allait de soi. Les facteurs de division ne manquaient pas au sein du jeune prolétariat. Les particularismes de toutes sortes, le nationalisme, les divisions religieuses étaient répandues. Pour combattre ces préjugés et forger une conscience de classe, les militants sociodémocrates furent une propagande inlassable, gagnant les ouvriers les plus conscients à leurs idées, éveillant des couches de plus en plus larges du prolétariat à la vie politique, à la compréhension de leur situation et du rôle que pouvait jouer le prolétariat pour transformer la société. Devant cette croissance numérique, mais surtout sociale et politique du prolétariat, Bismarck, qui considérait les socialistes comme, je le cite, « des bandes de brigands qui campent sur nos places », tenta d'arrêter leur progression en interdisant leur parti. Pendant 12 ans, de 1878 à 1890, les lois dites antisocialistes tentèrent de juguler le mouvement ouvrier en train de se développer. Bien sûr, le pouvoir n'avait pas attendu ces lois pour réprimer les grèves, poursuivre les militants devant les tribunaux, condamner les députés à la forteresse. Mais si les nouvelles lois contre les socialistes ne les empêchaient pas de se présenter aux élections, elles leur interdisaient de mener toute propagande et d'éditer des journaux. La police pourchassait les militants, dispersait les réunions. Les militants connus étaient privés de leur gagne-pain, bannis de leur ville. Les libraires, les aubergistes étaient mis sous surveillance. Berlin était placé en état de siège. Progressivement, camouflés en groupes de lecture ou de joueurs de cartes dans des appartements privés, en promeneurs du dimanche dans les parcs, les militants renouèrent les contacts et reprirent leurs réunions politiques. Une tâche très importante fut celle de continuer à diffuser et à publier la presse qui était rédigée à l'étranger. Il fallait échapper à la censure en faisant circuler clandestinement cette presse sous les manteaux ou dans le double fond des malles. C'était la poste rouge. La vie du parti se transforma autant de façon spontanée que par décision du parti lui-même. Et ce fut une école d'organisation où les militants apprirent le dévouement et l'art de ne pas succomber aux provocations policières. Le parti s'adapta à la répression en menant toute une activité illégale, en organisant les grèves, mais aussi en exploitant toutes les failles possibles du régime policier. Et la possibilité de participer aux élections, d'élire des députés au Parlement, en était une et de taille. Elle permit à la fois de mener des batailles politiques larges à l'échelle du pays et d'avoir une tribune, d'autant que les discours des parlementaires pouvaient être publiés, ce qui permettait de contourner la censure sur la presse. Voici ce qu'écrivait Engels du parlementarisme en 1895. Avec l'agitation électorale, il nous a fourni un moyen qui n'a pas son égal pour entrer en contact avec les masses populaires là où elles sont encore loin de nous, pour contraindre tous les partis à défendre devant tout le peuple leurs opinions et leurs actions face à nos attaques. Et en outre, il a ouvert au Reichstag une tribune du haut de laquelle ils ont pu parler à leurs adversaires, au Parlement, ainsi qu'aux masses au dehors, avec une toute autre autorité et une toute autre liberté que dans la presse et dans les réunions. La participation aux élections permit aussi de mesurer la croissance de l'influence social-démocrate dans la classe ouvrière. Le résultat, ce fut qu'elle progressait inexorablement à chaque élection. Et lorsque les lois antisocialistes furent abandonnées en 1890, le parti avait multiplié par 3 le nombre de voix, représentant 20% de l'électorat et obtenant 36 députés, même si pendant des années encore, certains d'entre eux continuèrent les allers-retours entre le Parlement et la prison. C'est en utilisant toutes les possibilités légales comme illégales pour continuer leur agitation politique que les socialistes devinrent la première force politique du pays. Ainsi, le Parti ouvrier allemand réussit à regrouper, à unifier les travailleurs derrière leurs objectifs de classe. La multiplication de grèves de plus en plus puissantes, les succès électoraux, la participation croissante d'ouvriers et de jeunes à l'activité du parti, tout cela lui conférait un poids important dans la vie politique du pays. Mais l'idée qu'on pouvait changer le sort des travailleurs de façon graduelle, qu'on pouvait gagner de plus en plus de positions dans les institutions bourgeoises et les transformer de l'intérieur, bref, que la révolution sociale n'était plus nécessaire, avait progressé également en son sein. Le réformisme avait gagné les rangs de la social-démocratie et sa direction. Le capitalisme, au stade impérialiste, accumulant dans les métropoles des richesses à un niveau jamais atteint jusque-là, en pillant les colonies, a entraîné la corruption d'une partie du mouvement ouvrier, créant une aristocratie ouvrière selon les mots de Lénine, ne voulant plus de bouleversement dans la société, c'est-à-dire de révolution. Ce n'est pas le fait de participer aux élections, ni l'existence d'une importante fraction parlementaire qui a entraîné le parti vers le réformisme. Mais la politique de cette fraction parlementaire n'en a été qu'un des reflets les plus visibles. Ce fut la guerre qui révéla la faillite de la fraction parlementaire et du parti. Quand l'empereur demanda le vote des crédits de guerre en 1914, seul Karl Liebknecht osa voter contre. Bien sûr, même si les députés avaient voté contre les crédits de guerre, cela ne l'aurait pas empêché, car cette guerre était avant tout le produit des rivalités entre impérialismes. Mais comme le dénonçait avec force Rosa Luxembourg, une dirigeante de ce parti, fustigeant la trahison politique de sa direction, « si les morts ouvriers de la commune étaient tombés au champ d'honneur de la classe ouvrière, maintenant, au contraire, des millions de prolétaires de tous les pays tombent au champ de la honte, du fratricide, de l'automutilation, avec aux lèvres leur champ d'esclaves. » Mais de cette guerre allait aussi surgir la révolution russe. En Russie, le parti bolchévique se développa au début du XXe siècle dans une autre situation. Le régime tsariste subsistait dans une économie profondément arriérée. Les capitaux anglais et français qui s'y étaient investis avaient créé des îlots de capitalisme moderne. Dans des villes comme Saint-Pétersbourg ou Moscou, de grandes industries regroupaient des milliers d'ouvriers. Cette classe ouvrière, bien que minoritaire, s'était développée en peu de temps. Elle était concentrée et avait acquis en quelques années une expérience des luttes. Le pays restait à 80% paysan. La plupart des paysans pauvres n'avaient été libérés du servage qu'en 1861 et vivaient misérablement. La monarchie était le maître absolu dans tout l'Empire. Il n'y avait pas de droit politique, pas de liberté démocratique. Il n'y avait même pas un semblant de représentation nationale. Et la bourgeoisie était tenue à l'écart du pouvoir. C'est dans ce contexte que le prolétariat jeune, en plein essor, entra en révolution en 1905. Le dimanche 9 février, une manifestation d'ouvriers qui apportait une supplique au tsar était mitraillée, faisant des centaines de morts devant le palais d'hiver. Dans les semaines, les mois qui suivirent, des grèves éclatèrent un peu partout. Dans les campagnes, des paysans pauvres révoltés brûlaient les châteaux des seigneurs. La révolte atteignit l'armée, avec l'insurrection du cuirassé Potemkin à Odessa. En pleine révolution, le tsar tenta de juguler l'incendie en accordant les libertés politiques et la promesse de l'élection d'une assemblée nationale appelée Douma d'État. Cela suffit à satisfaire les politiciens libéraux qui rentrèrent dans le rang et créèrent le Parti constitutionnel démocrate, dit Cadet. Mais du fait que les grèves se poursuivaient, Lénine défendit le boycott actif de la Douma. Boycott, parce qu'en période de révolution, il dénonçait le piège grossier que représentaient ces élections. Il défendait un boycott actif, permettant de participer à l'agitation électorale en organisant des meetings, des prises de parole pour propager les idées révolutionnaires. Ces élections furent annulées par le régime tsariste, car à la date fixée d'octobre 1905, la grève générale avait éclaté. Et ce n'est qu'en 1906, une fois la révolution écrasée, qu'eurent lieu les premières élections à la Douma. Pour Lénine, il devenait alors important d'y participer, parce qu'il fallait savoir utiliser même le peu de moyens légaux qu'offrait aussi bien la campagne électorale que l'activité des élus pour faire de l'agitation politique dans une période où, après l'activité intense de la période révolutionnaire, la répression allait s'abattre sur le parti, muselant ses militants et la classe ouvrière. Mais il ne parvint pas à convaincre ses propres camarades. La majorité des bolcheviks était en effet contre la participation à des activités légales octroyées par un régime qui venait de noyer la révolution dans le sang. La suite des événements donnèrent raison à Lénine. Les deux premières Doumas, élues pourtant avec un suffrage ni universel ni direct, furent jugées trop libérales aux yeux du tsar et elles furent dissoutes au bout de quelques mois d'existence. Chaque fois, la loi électorale fut modifiée dans un sens toujours plus restrictif, favorisant toujours plus les propriétaires fonciers et les capitalistes au détriment des ouvriers et des paysans pauvres. Aussi, la troisième Douma, élue en 1907, fut taillée sur mesure pour l'autocrate. Elle était monarchiste à une écrasante majorité et dura 5 ans, jusqu'en 1912. Malgré un mode de scrutin défavorable, le Parti social-démocrate réunifié, qui regroupait les mencheviks et les bolcheviks depuis la réunification de 1906, réussit, en combinant différentes alliances, à faire élire 18 députés, pour la plupart de la tendance menchevique, dont Lénine suivit avec attention l'activité. En 1912, la campagne électorale pour l'élection à la 4e Douma coïncida avec une nouvelle montée de la combativité ouvrière. Les ouvriers du pétrole se mettaient en grève à Bakou, ceux du textile à Moscou. Dans les mines d'or de Sibérie, des milliers de mineurs cessaient le travail pour la journée de 8 heures et la suppression des amendes qui permettaient aux patrons de baisser les salaires déjà misérables. Ils furent massacrés par centaines sur les bords de l'Alena. La nouvelle de ce massacre provoqua une vague de grèves et de manifestations, de protestations à l'échelle nationale, auxquelles prirent part plus de 300 000 personnes. En avril, plus de 700 grèves éclatèrent. Le 1er mai, plus de 1 000 grèves eurent lieu dans la seule région de Saint-Pétersbourg, la plupart de ces grèves mêlant des revendications économiques à des revendications politiques. La campagne électorale de 1912 fut l'occasion pour les bolcheviks de développer une propagande socialiste à l'échelle du pays. Il s'agissait de gagner de larges couches d'ouvriers aux idées et aux programmes socialistes et de mener une propagande de classe dans la paysannerie qui se prolétarisait. Il fallait aussi que le parti ouvrier cherche à arracher les couches sociales opprimées par le tsarisme à l'influence des libéraux. Le programme électoral contenait des revendications immédiates, les libertés politiques, les assurances ouvrières contre la maladie ou la vieillesse, mais il permettait aussi de mener une propagande socialiste générale autour de 3 points. La République démocratique, les 8 heures, la confiscation des terres seigneuriales. Il s'agissait de mots d'ordre sapant les fondements mêmes de la société tsariste et dissipant toutes les illusions de réforme. Dans un tract appelant à voter pour les candidats bolcheviks, c'est dans ces termes que Lénine appelait les ouvriers russes à se saisir de l'occasion des élections à la Douma pour renforcer le parti et leur position dans la société. Ouvriers, rappelez-vous l'année 1905. Par votre lutte gréviste, vous avez élevé des millions de travailleurs à une vie nouvelle, à la conscience, à la liberté. Et des dizaines d'années de réformes tsaristes n'ont pas donné, ne peuvent donner, le 10e des améliorations de votre vie que vous avez alors arrachées par votre lutte de masse. Le Parti ouvrier social-démocrate de Russie a su lever l'étendard de la révolution jusque dans la 3e Douma tsariste. Même du sein de cette assemblée, il a su aider à l'organisation et à l'éducation révolutionnaire des ouvriers, à la lutte des paysans contre les propriétaires fonciers. Maintenant encore, notre parti, c'est toujours Lénine qui parle, ne va pas à la Douma pour y jouer aux réformes, pour défendre la Constitution, comme le prétendent les libéraux pour tromper le peuple, mais pour monter à la tribune et appeler les masses à la lutte, pour enseigner les conceptions socialistes, pour dénoncer chaque tromperie du gouvernement et des libéraux, pour dissiper les préjugés monarchistes des couches arriérées du peuple et les racines de classe des partis bourgeois. En un mot, pour préparer l'armée des combattants conscients de la nouvelle révolution russe. Face à cette propagande, le régime et sa police consacrèrent tous leurs efforts pour empêcher les bolcheviks de mener leur campagne, interdisant les réunions publiques, pourchassant les militants qui prenaient la parole ou diffusaient les tracts. Le parti bolchévique dut non seulement déployer toute une activité électorale, à la fois clandestine et publique, mais il dut aussi user d'une tactique électorale d'alliance avec d'autres partis en cas de ballottage au second tour pour avoir des élus. En 1912, donc, le parti bolchévique réussit à faire élire 6 députés, dont Badaïev, élu à Saint-Pétersbourg, qui racontera ses souvenirs dans un livre, « Les bolcheviques au Parlement tsariste ». Il y montre comment l'action des députés bolcheviques joua un rôle dans la lutte révolutionnaire de la classe ouvrière et comment, à leur tour, les luttes ouvrières de masse influèrent sur le travail de la fraction bolchevique. À peine élu, Badaïev reçut quantité de demandes pour venir soutenir une grève, un syndicat, pour organiser le secours aux déportés ou l'aide aux camarades arrêtés. Le journal bolchevique, la Pravda, était le point de ralliement. Il indiquait l'heure de permanence du député, où les ouvriers faisaient la queue pour lui parler. Il publiait le texte de ses interventions, de ses actions comme parlementaire. Toute cette activité permettait de resserrer les liens avec la classe ouvrière. La Douma était une tribune qui permettait aux députés bolcheviques non seulement de défendre les idées socialistes publiquement, mais aussi de dénoncer l'interdiction de réunion, le non-enregistrement d'un syndicat, le lock-out de grévistes. Réunis en commission ouvrière avec des ouvriers du rang, la fraction des députés bolcheviques préparait également les interpellations au gouvernement, des propositions de loi comme celle sur la journée de 8 heures. Cela permit de développer toute une campagne autour de ce mot d'ordre, les ouvriers y répondant par des motions de soutien, des résolutions. Lors des périodes sans session à la Douma, les députés en profitaient pour faire des tournées clandestines en province, intervenir dans les meetings volants, centraliser l'argent des collectes de soutien. Quand les chantiers navals de la Baltique se mirent en grève pour des augmentations de salaire et que leurs délégués furent arrêtés, Badaïev, sollicité par les grévistes, demanda une entrevue au ministère de la Marine et s'en servit pour faire de l'agitation. Les journaux publièrent le détail de l'affaire, les raisons de la grève, le soutien du député qui exigeait d'être reçu sans se laisser impressionner par les fastes de l'Empire. Tout cela ne pouvait qu'encourager les ouvriers à ne plus se laisser faire, à riposter à chaque attaque par des mouvements de grève et de protestations de plus en plus massifs. Chaque enterrement de victimes de l'exploitation ou de la lutte de classe se transformait en démonstration révolutionnaire. Alors que les réunions étaient interdites, les cimetières se transformaient en lieux de meetings. Les rubans des couronnes mortuaires affichaient les slogans révolutionnaires. Les chants étaient des appels à poursuivre le combat. En juin et juillet 1914, à la veille de la guerre, les grèves se multiplièrent à Saint-Pétersbourg, mais aussi à Bakou, à Moscou. Elles regroupaient des centaines de milliers d'ouvriers contre des condamnations de grévistes ou pour les salaires, la journée de 8 heures. Les députés sillonnaient le pays, organisant le soutien, allant chercher dans les commissariats les camarades torturés, dénonçant dans leurs articles l'escalade guerrière. Ces grèves furent stoppées par la déclaration de guerre en août 14. La Douma fut réunie en séance extraordinaire afin de montrer la soi-disant union avec le peuple face à la guerre, mais surtout pour voter les crédits de guerre. La fraction bolchevique fit une déclaration dénonçant la guerre impérialiste et en appela à la solidarité internationale des travailleurs. Elle refusa de voter les crédits de guerre, quitta la séance. La fraction parlementaire resta quelques mois le seul point de ralliement et de travail de l'organisation alors que le parti et les militants étaient attaqués de toutes parts. Pour peu de temps, car en novembre 1914, les députés furent déportés en Sibérie. Ils en revinrent quelques années plus tard, en 1917, mais cette fois pour participer au renversement définitif du tsarisme. Et là-dessus, je vous propose de faire une petite pause.